Session de théologie sur l'Église de la lumière de l'Apocalypse par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 25 août 95, dernière conférence.
Je vous ai dit, il n'y a pas de conclusion. Pour une session qui regarde l'Apocalypse. La seule conclusion, c'est la Jérusalem céleste. Cependant, il est toujours bon d'essayer de prolonger ce que nous avons essayé de voir ensemble. Et donc, je vous invite tous, si vous ne l'avez pas fait, de continuer cette lecture de l'Apocalypse jusqu'au bout. En essayant, toujours, en interrogeant le Saint-Esprit, en essayant de comprendre comment l'Apocalypse doit être pour nous le grand livre de l'espérance. Combien l'Église est le lieu de prédilection et d'amour de l'agneau. Comme égorgé de Jésus, prêtre, grand prêtre, de Jésus, fils bien-aimé du Père. Je crois qu'il faut que nous arrivions de plus en plus en nous servant d'Apocalypse à mieux comprendre le sens de ces très grandes luttes nous vivons actuellement. Mieux comprendre, si vous voulez, ce mystère de la dernière semaine. Alors, avant de terminer, je voudrais voir quand même avec vous d'abord ce très beau passage que j'ai laissé exprès de côté ce matin. Avant le troisième signe, il y a ceci. Donc, il est affirmé, je reprends, 14, 13. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait, écrit, heureux, dès à présent, les morts. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les accompagnent. Oui, et alors, il y a ce fait qui serait très important, je pensais le faire, mais encore une fois, on est pris par le temps, de voir comment, à travers l'Apocalypse, il y a l'affirmation des béatitudes. D'une manière très particulière. Alors, vous l'avez ici écrit, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les accompagnent. Alors, c'est un texte que les théologiens ont pris avec beaucoup de force en face de ceux et en face, entre autres, de Luther, qui voulait affirmer seulement la foi et pas les œuvres. Donc la foi seule fait partie de notre sainteté et pas les œuvres. Alors il y a le texte de l'Épître de Saint Jacques qui est très net, et puis il y a aussi celui-ci. C'est très vrai. Notre vie ne se finalise pas par les œuvres, mais le mépris des œuvres, c'est-à-dire du travail pour le Seigneur, est toujours une chose qui n'est pas dans la lumière directe du Christ. L'œuvre par excellence, l'œuvre de Dieu, c'est la croix. Et nous sommes tous plus ou moins liés à cette œuvre. service de ses frères, et s'il le faut, de porter une œuvre. Mais, voyez, le mépris des œuvres risquerait toujours de ne pas comprendre le réalisme de la vie divine en nous. Alors, immédiatement après, et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée, assis quelqu'un de semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille et acérée. Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Envoie ta faucille et moissonne, car il est venu l'heure de moissonner. » Car la moisson de la terre s'est desséchée. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille acérée. Et un autre ange sortit de l'autel, celui qui a pouvoir sur le feu. Il cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille acérée, disant, « Envoie ta faucille acérée et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont à point. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, vendangea la vigne de la terre et jeta le toujours un aspect qualitatif qui montre la différence entre tous ces anges qui sont tous des envoyés et d'où ils sortent. Alors ici, voici une nuée blanche et sur la nuée, quelqu'un de semblable à un fils. Donc ce n'est pas l'ange, c'est Jésus qui, dans son sacerdoce, a comme fonction propre de moissonner. Mais c'est un ange sorti du sanctuaire, donc du Saint des Saints, qui crie « Envoie ta faucille et moissonne ». Ça ne peut être que Marie reine, au plan théologique. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait cette coopération entre Jésus et Marie dans cette moisson et la vendange, puisque Jésus et Marie, ou plus exactement Marie avec Jésus, est liée à Jésus à la croix. Vous voyez le mystère de Marie, femme, dépasse le point de vue de Marie, mère de Jésus, montre Marie comme associée au mystère de la rédemption de Jésus et associée à ce mystère de la moisson. C'est important pour nous parce que la proclamation de Marie reine est récente dans l'Église. La fête de Marie reine. Et si je regarde ce texte, je crois, chercher toutes les autres hypothèses, vous voyez que ça ne colle pas. Donc, on arrive à celle-ci, qui me semble du reste très belle et très vraie. Sortie du Saint des Saints, donc c'est Marie liée au Saint des Saints, la blessure du cœur du Christ, le cœur de Jésus. Envoie ta faucille et moissonne. Elle est venue, l'heure de moissonner. Car la moisson de la terre s'est desséchée. C'est très étonnant de reste souligner cela. Comme si Jésus avait attendu un peu trop longtemps. Et que Marie intervient, il est grand temps. Voyez, quand vous regardez Cana, vous voyez, dans le dialogue de Jésus et de Marie, dans le dialogue de Jésus et Marie, qui pour la première fois est regardée comme femme, Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et Marie comprend que Jésus accepte cependant d'avancer son heure grâce à Marie. C'est dit dans le texte, si on veut regarder attentivement. Marie anticipe toujours avec hâte, la hâte de Marie. Et Jésus écoute Marie. Et il fait ce geste, changer l'eau en vin, ce miracle, ce premier signe qui va en quelque sorte envelopper toute sa vie apostolique. Parce que ce signe ne sera réalisé dans toute sa force qu'au moment où Jésus, instituant l'Eucharistie, transformera le vin en son sang. Jésus ne donne pas seulement le vin de la parole, mais il donne le nouveau vin qui est son sang, c'est-à-dire qu'il meurt par amour pour nous. Et je trouve que les deux textes s'éclairent merveilleusement. On souligne la moisson. La moisson de la terre. des fonctions, il sort aussi du sanctuaire. Et c'est Marie. Et ici, c'est Jésus qui dit à Marie, jette ta faucille. Oui, comme c'est étonnant. Comme c'est beau de voir cette espèce d'action mutuelle de l'un et de l'autre. Pour nous faire comprendre l'unité. Et pour nous faire comprendre en même temps la diversité. Il faut lire et relire ce texte. Parce que c'est magnifique. Nous avons récité dans notre vie, je ne sais pas combien de fois, à la Vierge Marie d'être là au moment de notre mort. Il faut bien que Marie réponde. Tu ne serais pas gentil de ne pas répondre. Nous lui demandons d'être là. Alors, ici, on a cette réponse. Jésus sera là pour moissonner, Marie sera là pour vendanger. Parce que l'ange qui sort de l'autel, celui qui a pouvoir sur le feu, c'est Jésus. C'est Jésus qui envoie le paraclet. Le feu de l'amour. Et durant sa vie apostolique, Jésus lui-même dit qu'il est venu pour envoyer le feu. Et donc c'est Jésus qui dit à Marie, jette ta faucille, envoie ta faucille à serrer et vendange. Alors, on peut essayer de comprendre un peu cette coopération. On retrouve le symbolisme de l'Eucharistie jusqu'au bout. D'abord, première constatation, le pain et le vin, la moisson et la vendange. Mais alors radicalement ici, pas symboliquement, mais radicalement. Et si on réfléchit sur le symbolisme du pain et du vin, le pain, c'est nécessaire. Le vin, c'est la surabondance. C'est la fête, c'est la surabondance. Tandis que le pain, c'est nécessaire. Vous n'avez qu'à réfléchir un instant. Quand un mendiant vous demande un morceau de pain parce qu'il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, vous ne pouvez pas lui refuser. Vous n'avez pas le droit. Quand un mendiant vient vous réclamer une petite pièce pour pouvoir continuer de boire du bon rouge. Vous hésitez. J'avais comme ça ma petite clientèle à Fribourg. Et de temps en temps, j'hésitais. Quand à 10h du matin, je voyais mon brave bonhomme qui arrivait. À chaque fois, je disais, je vais te chercher du pain. Elle me dit, oh non. Alors, je comprenais. Alors, il y a des pères qui me disent, surtout ne me les donnez pas. Ils disaient, mais si c'est sa seule joie, est-ce que j'ai le droit de refuser? C'est vrai. Pas commode, hein, comme cas de conscience, on va se poser la question. Alors on voit tout de suite la différence, hein, des spiritualités, même entre dominicains. Mais c'est très beau ça. Le pain, c'est le mystère de l'amour à l'égard de Dieu, donc l'adoration et la soif de contemplation. Ça, c'est la moisson, c'est le blé. Et la vendange, c'est la charité fraternelle, symboliquement. Et c'est Marie. La charité fraternelle est remise à la mère, à la croix, et déjà à l'Annonciation. Au vrai Élisabeth. Alors, c'est très très beau de voir que Jésus est là, Marie est là, pour indiquer le terme de notre pèlerinage, le terme du pèlerinage de l'Église. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que la moisson, ça se passe très vite. La vendange, pas tout de suite, pas très rapidement. L'ange jeta sa faucille sur la terre, vendangea la vigne de la terre et jeta le tout. Alors, est-ce que le tout, c'est la moisson ou uniquement la vendange, les grappes, la vendange? Je crois que ce n'est que le vin. Et jeta le tout dans la cuve, la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée au dehors de la ville. Et de la cuve, il sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux. Jusqu'aux morts des chevaux. En ce sens que ça ne pouvait pas aller plus haut. Bah, les chevaux seraient morts dans le sang. Et c'est une manière symbolique merveilleuse de montrer la surabondance. On est dans la surabondance, dans la charité fraternelle, tout le temps. Personne d'entre nous n'oserait dire qu'au point de vue de la charité fraternelle, il en a fait assez. Tandis que, en bonne conscience, je veux dire quoi? Oui, j'adore le Seigneur. Je fais des sacrifices. Je récite l'office. Je prie régulièrement. Ça va. La charité fraternelle, ça va jamais. Vous voyez, le symbolisme pour la vendange. Et c'est jeté dans la cuve de la fureur de Dieu, de la colère de Dieu. C'est tellement beau, ça. Quelle est la seule chose qui peut apaiser la colère de Dieu? C'est la charité fraternelle. C'est le don de nous-mêmes aux pauvres et aux plus pauvres. C'est le don de nous-mêmes aux prochains, en pure gratuité, en pure perte. Parce que c'est ça la charité fraternelle. C'est toujours la surabondance. C'est donner en pure perte. Et quand on utilise la charité fraternelle, ce n'est plus la charité fraternelle. Comme aujourd'hui, il faut rappeler ça, la gratuité. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est. Alors au début, ah oui, on se donne, je me donnerai gratuitement. Plus de quelques années, hein, vous feriez bien de me payer. On voit très bien ça. Comme c'est difficile de maintenir la gratuité. Parce qu'il y a des droits qui poussent. Je suis le vieux serviteur. Oh, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Mais quand même, hein, je fais partie de la maison. C'est beau de voir ça, la manière dont est montrée la vendange qui se fait par Marie, avec l'ordre du Christ. Parce que toujours, le second commandement, il est en dépendance du premier. Il est le résultat du premier. Il y a donc là quelque chose qui est très important pour nous, pour comprendre le terme de ce pèlerinage, pour chacun d'entre nous et pour l'Église. Vous avez ensuite, alors là, je vais très rapidement, je ne peux pas faire autrement, les sept plaies. Remarquez, il y a la même chose pour les plaies. une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux sept anges « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. » Et le premier s'en alla, il versa sa coupe sur la terre, et il y eut un ulcère mauvais et pernicieux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui se prosternaient devant son image. Dieu a tout fait pour les avertir, pour les secouer. Sixième trompette, n'a pas changé. Alors il faut quelque chose de très particulier. Quelque chose qui, d'une certaine manière, n'est plus de la terre et encore sur la terre, parce que ça se fait sur... Et qui ne s'explique que par l'action directe de Dieu. Et deuxième versant sa coupe sur la terre, il y eut du sang comme d'un mort, et tout être vivant qui était dans la mer mourut. Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et les sources des eaux, et il y eut du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, celui qui est, celui qui était, toi, le saint, d'avoir exercé ces jugements, car ils ont versé le sang de saints et de prophètes, et c'est du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, véridique et juste tes jugements. Et cette exigence de la justice divine d'aller jusqu'au bout de la purification. C'est bien ce qu'on entend par le purgatoire. Purgatoire sur la terre, purgatoire de l'autre côté. C'est une sorte de purgatoire. Et le quatrième versant sa coupe sur le soleil. Oui, on retrouve toujours un peu le même ordre. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés d'une grande brûlure. Ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a le pouvoir sur ses plaies. Ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Jusqu'où va l'endurcissement de l'orgueil? C'est ça qu'il nous est montré. Dieu laisse la liberté. Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume devint enténébré. Et les hommes se mâchèrent la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel pour leur douleur et leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et le sixième versa sa coupe sur le fleuve, le grand Euphrate. Et l'eau du fleuve se dessécha pour que fût prêt le chemin des rois du soleil levant. Et c'est vraiment direct de Dieu. Alors on l'exprime symboliquement. Cette grande purification. Un peu comme les plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte étaient pour corriger le cœur du Pharaon. Et ici, c'est pour corriger, pour purifier le cœur de ceux qui doivent entrer dans le ciel. Et le septième versa sa coupe dans l'eau, dans l'air. Et du sanctuaire, d'auprès du trône, il sortit une voix forte qui disait, c'en est fait. sur la terre, une pareille secousse aussi grande. Et la grande ville s'en alla en trois morceaux. Et les villes des nations tombèrent, et de Babylone la grande, on se souvint devant Dieu pour qu'il lui donne la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et on ne trouve plus de montagne, et une forte grêle, comme de grelons pesant un talon, s'abat du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu pour cette extrêmement. Oui, alors c'est la destruction de Babylone. Là encore, voyez, l'œuvre de la bête, de la terre et de la mer, c'est de construire Babylone. Oui, alors, alliance avec Marie, alliance avec Jésus, l'Église. Babylone, c'est l'antithèse de l'Église. Et c'est le fruit direct du démon. Et Dieu veut purifier les hommes de tout contact avec Babylone. Puisque le discernement des hommes n'est jamais parfait entre le bien et le mal. Il faut cependant que ce discernement se fasse parfaitement pour qu'il puisse entrer dans la Jérusalem céleste. Alors nous avons une liturgie étonnante sur Babylone, un lyrisme extraordinaire sur la destruction de Babylone. Tellement les hommes étaient attachés à ça. Babylone la grande. Mais la lamentation des amis de Babylone, ils pleureront, ils se frapperont la poitrine à son sujet, les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et ont partagé son luxe. Lorsqu'ils verront la fumée de son incendie, se tenant au loin par peur de sa torture, ils diront malheur, malheur. Babylone, la ville puissante, car en une heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et mènent le deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent. Alors, c'est vraiment la grande lamentation, mais une liturgie de tous ceux qui sont liés à la Babylone. Alors là, il y a quelque chose de très important à déceler, c'est que on voit que ce jugement de Dieu, c'est de pouvoir séparer le bien du mal, alors que si souvent on se demande si telle chose est de Dieu ou telle chose est du démon, pas toujours commode à discerner. À cause de l'imitation. Le démon imite. Et si on n'a pas des signes très nets, on risque de se laisser séduire. Alors, l'œuvre de Dieu, avant l'entrée dans le ciel, c'est ce discernement. Vous voyez, le jugement implique ce discernement entre le bien et le mal. Et je crois que c'est ça qui nous fait comprendre cette chute de Babylone. Et je vis, donc céleste, de l'Église du ciel, et donc de chacun d'entre nous, et de Marie. Viens d'en haut. Tout vient d'en haut. Et on retrouve ici le symbolisme de l'époux et de l'épouse, qui n'a pas quitté, du reste, c'est sûr, mais qui reprend toute sa force. Et le terme, donc, l'entrée dans la Jérusalem céleste, apparaît vraiment comme l'union de l'époux et de l'épouse, réalisée de cette manière tout intime, toute familiale. Et c'est vraiment la grande victoire de l'agneau. Ce sont les noces de l'agneau avec l'Église, avec les hommes de bonne volonté, avec tous ceux qui ont cherché la vérité. Noces d'amour. Babylone. jusqu'au bout pour qu'il redécouvre la miséricorde du Père, pour qu'il redécouvre l'amour du Père, pour qu'il redécouvre la sollicitude